marche du monde. Valérie Nivelon.
Bienvenue dans votre émission consacrée cette semaine à l'histoire de notre République française. Nous vivons encore sous la Ve, définie par la Constitution de 1958 et incarnée par le plus illustre des Français.
Effectivement, la voiture du général de Gaulle, précédée des motards, vient d'accéder juste devant l'hémicycle, face au podium. Et sous les acclamations, il gravit lentement la tribune. Il accède maintenant, les bras levés en V selon son geste familier, devant la foule qui l'acclame.
C'est en un temps où il lui fallait se réformer ou se briser que notre peuple, pour la première fois, recourut à la République. Jusqu'alors, au long des siècles, l'ancien régime avait réalisé l'unité et maintenu l'intégrité de la France. Mais tandis qu'une immense vague de fond se formait dans les profondeurs, il s'était montré hors d'état de s'adapter au monde nouveau. C'est alors que, au milieu du drame national et de la guerre étrangère, apparut la République. Elle était la souveraineté du peuple, l'appel de la liberté, l'espérance de la justice. Elle est restée cela à travers les péripéties agitées de son histoire. Et aujourd'hui, autant que jamais, nous voulons qu'elle le demeure.
Bonjour Michel Vinocq.
Bonjour.
Et merci d'avoir accepté notre invitation ce week-end anniversaire de votre naissance.
Tiens donc, vous connaissez ça.
Alors, quel souvenir personnel gardez-vous de ce discours du général de Gaulle? Un discours prononcé sur un très haut podium, Place de la République, à Paris, le 4 septembre 1958. Vous aviez 22 ans, Michel.
Eh bien, le 4 septembre n'avait pas été choisi par hasard, évidemment, puisque c'était un anniversaire déjà. L'anniversaire de la proclamation par la rue, par l'hôtel de ville, de là... Nouvelle République en 1870, après la chute de Napoléon III, qui dans la guerre franco-prussienne avait été battu à Sedan.
Et au moment du 4 septembre 58, où vous trouvez-vous, Michel Vinocq?
Je me trouve à Paris et je suis dans un état d'esprit qui ne correspond pas tout à fait à ce discours. Le discours de De Gaulle que nous venons d'entendre, tout au moins une partie, est très beau. Moi, j'étais en 1958 un jeune homme, j'avais 20 ans, 21 ans, et je militais contre la guerre d'Algérie. Et comme militant de la guerre d'Algérie, je n'avais pas beaucoup aimé l'insurrection du 13 mai 1958 à Alger, et qui avait été suivie par le retour du général de Gaulle, que je respectais, que j'admirais personnellement, mais ce que je ne pouvais pas supporter avec évidemment tous ceux qui m'influençaient, les journaux que je lisais, etc., c'était que ce retour avait été fait avec l'appui de l'armée et la menace, par conséquent, d'un coup d'état militaire.
Alors, le général de Gaulle, à ce moment-là, veut convaincre les Français de voter oui à la nouvelle constitution de 1958 et donc à la Ve République. Nous y reviendrons. Et il en profite, vous l'avez souligné, pour rappeler que la République, c'est d'abord l'expression de la souveraineté du peuple, l'appel de la liberté, dit-il, et l'espérance de la justice. Est-ce que c'est une bonne définition?
Oui, certainement. Il y manque peut-être la dimension démocratique. C'est-à-dire le fait que la République, c'est la souveraineté nationale, la souveraineté populaire. Mais par ailleurs, il le sait fort bien, De Gaulle, puisque lui-même va instaurer un nouveau régime, une nouvelle république qui est fondée sur le suffrage universel. Et contrairement à ses successeurs, notamment, il va faire usage du référendum. Et un référendum sur telle ou telle question, à l'issue duquel, si la réponse est non, eh bien lui-même s'en ira. Donc il y a là un aspect démocratique dans une république qui paraissait au départ fort peu démocratique en raison du renforcement considérable des pouvoirs du président de la République.
Professeur émérite à Sciences Po, vous êtes Michel Vinocq, l'un des historiens français les plus experts de nos institutions politiques et l'auteur, chez Robert Laffont, de La France républicaine, où vous démontrez pourquoi la contestation de l'État par les Français vient de nos profondes divisions, une guerre civile latente dont l'origine remonte à la Révolution. La Marche du Monde reçoit Michel Vinocq sur RFI. Nous revenons sur la longue gestation de la France républicaine et tout d'abord à sa conception, d'où ma première question. Est-ce que la République est la fille de la Révolution française en 1789?
C'est indiscutable, même si les députés aux États généraux qui vont devenir une assemblée constituante n'ont pas en tête, au départ, l'idée de créer une République. Robespierre lui-même, qui est une sorte de symbole de la Révolution, il est monarchiste, seulement pas n'importe quelle monarchie. Ce qu'on veut, c'est une monarchie limitée et non plus une monarchie absolue.
Donc la Révolution n'est pas proprement parlée républicaine?
Non, au départ, elle n'est pas républicaine, mais c'est parce que il y a eu de la part de Louis XVI un certain jeu. Au fond, le roi n'acceptait pas de voir ses pouvoir limité. Il était dans la tradition absolue. Il était roi de droit divin. Et par conséquent, pour lui, il était nécessaire de préserver à la monarchie française son héritage. Et c'est pourquoi il a accepté cette constitution qui va être votée en 1791 en songeant que par la guerre, cette constitution serait abolie et qu'il y aurait une restauration du pouvoir absolu.
Alors l'idée de république va être longue à s'imposer avec de multiples coups d'État dont le but est de restaurer cette monarchie. Bonaparte en 1799, puis Napoléon III en 1851. Alors à partir de quel moment, Michel Vinocq, estimez-vous que la France devient réellement républicaine? Est-ce qu'il faut attendre 1871 et la Troisième République?
C'était pas encore fait. Oui, la gestation de la République en France, eh bien, elle a été très longue. La preuve est que nous en sommes à la cinquième et certains en voudraient même une sixième.
Absolument.
Ça ne va pas de soi. Vous parlez de la Troisième République, mais vous savez, en 1870-71, le climat n'était pas encore véritablement à la République, car Bismarck, qui était le vainqueur, n'est-ce pas, de la guerre, a exigé qu'il y eût des élections pour négocier la paix définitive avec la France. Or, ces élections du 8 février 1871, elle amène au pouvoir une majorité de monarchistes. Vous vous rendez compte? Nous sommes en république de fait, mais les monarchistes qui sont majoritaires ne veulent qu'une chose, c'est de restaurer. Donc la difficulté est énorme. Il faudra presque 10 ans pour que, à la suite d'un certain nombre de péripéties et d'élections, les républicains arrivent enfin véritablement au pouvoir.
Alors, ce qui est extrêmement intéressant dans votre analyse, Michel Vinocq, c'est que vous cherchez à éclairer en profondeur la particularité française du mécontentement chronique de ces citoyens. Vous interrogez le comportement d'insoumission si caractéristique des Français et vous écrivez que cette insoumission, justement, ne vient pas seulement de l'opposition au pouvoir politique. Alors, cet héritage de division, vous l'expliquez par 3 fractures, la lutte des classes, les affrontements institutionnels et les conflits religieux.
Henri de Bourbon, roi de Navarre, acceptes-tu de prendre pour épouse Marguerite de Valois?
J'accepte.
Marguerite de Valois, acceptes-tu pour époux Henri de Bourbon, roi de Navarre? Marguerite de Valois, acceptes-tu pour...
Ah,
Au nom du Père, au nom du Fils et au nom de la Sainte Église, je vous déclare mari et femme.
Ainsi commence l'histoire de la reine Margot. 5 jours plus tard, ce sera la Saint-Barthélemy.
Tu es le roi d'un pays catholique aujourd'hui. Tu peux être fier.
Oui, tu peux être fier. Tu es le roi d'un pays où plus rien ne s'agite, hormis des pendus au gibet. Paris est un cimetière. Tes sujets sont des morts couverts de terre, des vivants couverts de honte. Et vous, vous qui êtes toujours si inquiète pour mon fils, vous pouvez être tranquille. Ils sont maudits pour l'éternité. Et moi aussi, je suis maudite.
Pourquoi ?
Parce que vous avez invité vos victimes à mes noces. Vous vous êtes servi de moi. Vous vous êtes servi de nous comme un peuple carnage. Toujours le même.
Extrait de La Reine Margot, chef-d'œuvre du réalisateur Patrice Chéroux avec Isabelle Adjani dans le rôle titre, une fresque historique sur le 24 août 1572 et le déclenchement des massacres de la Saint-Barthélemy, adapté du roman éponyme d'ailleurs écrit par Alexandre Dumas. Alors pourquoi cet épisode est-il le plus mémorable de cette guerre de 40 ans qui ensanglante la France au XVIe siècle, Michel Vinocq ?
Oui, au XVIe siècle donc. Il y a cette guerre de religion, comme on l'appelle, entre les protestants et les catholiques. Et évidemment, il y avait un principe selon lequel les habitants d'un pays devaient avoir la religion de leur monarque. Et que le roi ne pouvait pas, le roi de France, ne pouvait pas supporter par conséquent une dissidence religieuse, d'autant que la monarchie était soutenue par l'Église catholique. S'en est suivi par conséquent une guerre de religion très sanglante avec cet épisode de la Saint-Barthélemy, mais il y en a eu bien d'autres, au bout duquel, et ça a duré donc 40 ans cette guerre terrible, au bout duquel là, on a pu, grâce à Henri de Navarre, devenu Henri IV, protestant lui-même, mais parce qu'il s'était converti au catholicisme, on a pu arriver à une paix provisoire, une paix de tolérance avec un certain nombre de d'articles qui limitaient quand même cette tolérance, mais néanmoins on pouvait être protestant en France au début du XVIIe siècle jusqu'au moment où Louis XIV va en 1685 abolir l'édit de Nantes, interdire la religion protestante, ce qui va avoir des conséquences énormes sur le cours de l'histoire.
Alors ce massacre de la Saint-Barthélemy, c'est donc le symbole de l'intolérance religieuse. Hein. 2000 à 4000 huguenots massacrés à Paris, 10 000 en province. Ce qui veut dire, Michel Vinocq, que ce chemin vers la tolérance religieuse a été très très long en France et qu'aujourd'hui, ce clivage entre religion et laïcité prend ses racines dans cette longue histoire. Ce n'est donc pas nouveau. Quelle analyse faites-vous aujourd'hui de cette question brûlante qui s'est invitée d'ailleurs dans la campagne présidentielle ?
La guerre de religion a changé d'aspect. Après la révocation de l'édit de Nantes, il y a eu énormément d'exils, de réformés, de huguenots, comme on les appelait, qui sont partis en Angleterre, en Suisse, aux Pays-Bas. Et le nombre des protestants a diminué singulièrement. Aujourd'hui, ils sont 700 000 environ. Il n'y a plus de guerre de religion. La paix est faite, je dirais, entre les catholiques et les protestants.
Mais la laïcité est remise en
voilà,
cause.
Exactement. La guerre de religion a pris un autre aspect sous la Troisième République, parce que les républicains, les fondateurs de la Troisième République, ont rencontré en face d'eux un adversaire de taille qui était l'Église catholique. L'Église catholique du XIXe siècle, sous des papes comme le long pontificat de Pie IX notamment, était rigoureusement hostile à la démocratie, à la République donc, et d'une manière générale au monde moderne, comme le dit le Syllabus, un des grands textes, on doit dire, conservateur et même réactionnaire de l'Église, publié en 1864. Donc, les républicains, pour établir la République, devaient, non pas détruire l'Église, mais ils devaient la dominer, la tenir en respect. Et c'est pourquoi une nouvelle guerre, alors qui n'est pas sanglante, mais c'est une guerre des idées, c'est une guerre politique, s'est faite entre les républicains et les catholiques. Quand je dis les catholiques, je ne veux pas dire tous les catholiques, puisque tous les Français à peu près l'étaient. Mais bien entendu, la hiérarchie catholique, la presse catholique, les élites catholiques, etc. Et les républicains ont inventé la laïcité. La laïcité, ça voulait dire, eh bien, l'indépendance des religions par rapport à l'État, l'indépendance de l'État par rapport aux religions. Ça a commencé par les grandes lois scolaires, la création d'une école gratuite, obligatoire, laïque, dans laquelle on n'enseignerait pas la religion. On séparait, par conséquent, l'école de l'enseignement religieux. Et, bien entendu, ça a soulevé l'hostilité de la presse catholique, des catholiques, etc. Les écoles privées catholiques étaient préservées, mais ils n'étaient plus aidés par l'État. Et puis, enfin, on va arriver à la grande loi de 1905, loi de séparation des églises et de l'État, c'est-à-dire que l'État républicain garantissait la liberté religieuse, mais ne voulait plus subventionner les culte. Et cette guerre-là, entre républicains et catholiques, eh bien, elle a constitué véritablement les grandes familles politiques. Sous la Troisième République, être de gauche, c'est avant tout être un laïc. Et être de droite, c'est plutôt défendre l'Église catholique.
Alors, ce qui veut dire, Michel Vinocq, que ce clivage entre religion et laïcité est loin d'être nouveau au sein de la République, et que surtout, la laïcité est le fruit d'un rapport de force extrêmement violent entre l'État républicain et l'Église catholique. Mais aujourd'hui, quel en est son héritage ? Est-ce que les musulmans qui remettent en cause la laïcité et qui souhaitent l'intervention du religieux dans l'espace public ou dans l'élaboration des lois sont aujourd'hui l'expression d'un long conflit, finalement?
Oui, certainement, mais un long conflit complètement différent, nouveau. Tout d'abord, remarquons-le, il y a une résurgence d'un catholicisme politique minoritaire. Vous avez une organisation qui s'appelle Sens Commun, par exemple, qui a été au cœur des manifestations contre la loi du mariage pour tous, et qui aujourd'hui soutient le candidat de la droite, Fillon. Donc il y a cette renaissance-là. Et puis il y a le problème de l'islam. Est-ce que l'islam est un problème ? Théoriquement, il ne devrait pas y en avoir. Si l'on respecte la loi de 1905, la République autorise toute la liberté religieuse, toutes les religions, mais il se trouve que dans cet islam, il y a une partie radicale, extrême, l'islamisme, et qui est là un véritable danger.
Alors justement, est-ce qu'au fond, la question aujourd'hui, Michel Vinocq, qui secoue la République laïque, une et indivisible, est-ce que c'est pas cette question du radicalisme, qu'il soit religieux, ou qu'il soit politique, ou qu'il soit communautariste ?
Bien sûr. C'est le grand défi qui est lancé à la République. Nous n'avons pas de statistiques, mais nous le savons par enquête, la grande partie des musulmans vivant en France aujourd'hui sont intégrés. Ils pratiquent les métiers des autres, etc. Mais il y en a une partie, une enquête du CEVIPOF, qui est un centre de recherche de Sciences Po, a montré que à peu près un petit tiers des musulmans vivant en France estiment que la charia est supérieure aux lois de la République. Et là, c'est un véritable danger, par conséquent. C'était un peu comme au début du XXe siècle, lorsque les catholiques français estimait que la loi catholique, la loi romaine, les dogmes, etc., étaient supérieurs aux lois de la République. Mais cela va beaucoup plus loin aujourd'hui, parce que cette opposition, elle donne lieu à une radicalisation des esprits et un engagement surtout, un engagement des jeunes gens, de plusieurs centaines, milliers peut-être de jeunes gens qui s'engagent du côté de l'islamisme radical, qui partent pour la Syrie ou l'Irak, etc., et qui représentent évidemment un danger religieux comme nous n'en avons jamais connu.
La République, selon Michel Vinocq, c'est dans la marche du monde et c'est à suivre sur RFI.
La marche du monde, Valérie Nivelon.
C'est la suite de La Marche du Monde sur RFI avec notre invité historien Michel Vinoc. Nous brossons le portrait de notre République française, jugée moribonde par certains et encore pleine de jouvence par d'autres. Écoutez comment l'actuelle 5e République est présentée en 1958 lors du grand retour de l'homme providentiel, le général de Gaulle.
C'est dans la légalité que moi-même et mon gouvernement avons assumé le mandat exceptionnel d'établir un projet de constitution nouvelle et de le soumettre à la décision du peuple. La nation qui seule est juge approuvera ou repoussera notre œuvre, mais c'est en toute conscience que nous la lui proposons. Nous l'avons fait pour le peuple que nous sommes, au siècle et dans le monde où nous sommes. Qu'il existe, au-dessus des querelles politiques, élu par les citoyens qui ont un mandat public, qu'il existe un gouvernement qui soit fait pour gouverner, à qui on en laisse le temps et la possibilité, qui ne se détourne pas par rien d'autre de sa tâche et qui ainsi mérite l'adhésion du pays, qu'il existe un Parlement destiné à représenter la volonté politique de la nation, à voter les lois, à contrôler l'exécutif, mais sans sortir de son rôle, que l'autorité judiciaire soit assurée de l'indépendance et puisse ainsi rester la garante des libertés de chacun. Voilà, Françaises, Français, de quoi s'inspire, en quoi consiste la Constitution qui, le 28 septembre, sera soumise à vos suffrages. Au nom de la France, je vous demande de répondre oui. Vive la République, vive la France!
Et effectivement, ils ont répondu oui, les Français, en 1958, pour un régime qui deviendra présidentiel en 1962 avec l'élection du président au suffrage universel. Alors, vous en pensez quoi, vous, de cette 5e République, Michel Vinoc? Est-ce qu'elle vous convient et est-ce qu'elle convient encore aux Français?
Tout d'abord, remarquons qu'en 1958, plus 1962, élection du président au suffrage universel, cette constitution a bien marché, bien fonctionné. Pourquoi ? Parce que nous étions, jusqu'en 62, dans la guerre d'Algérie. Une guerre que la 4e République, le régime précédent, avait été dans l'impossibilité, l'incapacité de régler. Et cette impuissance, il fallait en sortir. Et de Gaulle a pu profiter de l'émotion du 13 mai 1958 pour faire un retour sur le détail duquel je n'insiste pas, simplement pour dire au passage que quand il dit que son retour était parfaitement légal, ce n'est qu'à moitié vrai, puisque il a tout de même bénéficier d'une sorte de chantage, du putsch militaire qui risquait d'avoir lieu si on ne l'appelait pas. Mais enfin, il est certain que son retour a été légalisé, approuvé par le peuple, et son projet de constitution a atteint 80% de la population, des oui, les oui l'ont emporté, et indiscutablement, alors que la 4e République avait été fondée sur un minimum de suffrages, cette fois, elle est la 5e parfaitement légitime. Et elle fonctionne. Et elle fonctionne encore une fois parce que nous sortions d'un régime tellement faible, ce régime parlementaire dans lequel il n'y avait jamais de majorité et où les grands chefs qui pouvaient avoir le pouvoir à un moment donné, comme Pierre Mendès France, au bout de 7 mois, ils étaient mis en difficulté. Donc, c'était un redressement indiscutable de la vie politique. Mais aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle et nous ne sommes plus dans la même société. Nous n'avons plus les mêmes demandes. Et en particulier, il y a un certain déficit démocratique.
Donc vous, Michel Vinocq, vous ne préconisez pas une 6e République, vous préconisez plutôt une réforme de la 5e. Vous avez d'ailleurs fait des propositions avec Claude de Bartolone lors de votre rapport sur les institutions.
Oui, en particulier, nous sommes frappés, comme tous les observateurs, par l'écart qui s'est creusé sans arrêt entre la classe politique et les citoyens. L'impuissance de ces politiques de gauche et de droite face aux problèmes récurrent, permanent, celui du chômage de masse. Nous sommes un pays qui compte au minimum 5 millions de chômeurs et on n'a pas été en capacité de régler ou d'amenuiser ce problème.
Vous dites également qu'il y a un problème de professionnalisation de la politique.
Voilà.
Il faut réduire le mandat.
Alors, professionnalisation de la politique avec création d'une sorte de caste gouvernante et demande d'une société qui n'est plus la même qu'en 58, c'est-à-dire une société qui est plus évoluée, plus instruite, et qui exige, comme le veut la règle démocratique, de participer un peu plus. Revenons à De Gaulle. De Gaulle, je l'ai dit, avait pratiqué fréquemment le référendum, qui était une sorte de question de confiance qu'il posait au peuple. Et si c'était non, il s'en allait, ce qui est arrivé en 1969. Depuis, c'est fini. On n'a plus posé ces questions de confiance. Il y a bien eu des référendums, mais qui ne mettaient nullement en jeu l'existence du président, l'existence politique du président. Eh bien, dans la commission que nous avons présidée avec Claude Bartolone, c'est vrai, nous avons proposé l'usage d'un référendum et même d'initiatives populaires. Nous voudrions rendre plus facile cette initiative populaire. Nous avons voulu suggérer la nécessité de donner la parole aux citoyens.
Il est nécessaire dans notre République de donner la parole aux citoyens, c'est ce que vous défendez, Michel Vinocq. Et à travers votre ouvrage, justement, sur la République française, vous montrez que cette République reste encore fragile, parce qu'il y a cet héritage des divisions. Alors nous avons évoqué les guerres de religion, et c'est maintenant le conflit sur les institutions que je souhaiterais aborder avec vous, Michel Vinocq. Vous écrivez qu'à chaque fois qu'il y a l'instauration d'une nouvelle République, c'est en réaction contre l'homme fort d'un pouvoir exécutif, et c'est d'ailleurs ce qui arrive à De Gaulle en 1946.
Exactement. Il y a eu dans l'esprit républicain en formation depuis la Révolution cette idée que la souveraineté du peuple devait être exprimée par une assemblée. Et si possible, une assemblée unique. En 1848, nouvelle Révolution, cette fois, on a créé, on a inventé la présidence de la République. Ça n'existait pas, donc, auparavant. Mais Louis-Napoléon Bonaparte, devenu président de la République, comme il n'était pas rééligible, il n'y avait un mandat que de 4 ans, a voulu rester au pouvoir. Et ne pouvant pas obtenir la révision constitutionnelle, il a fait un coup d'État et il est devenu un an après empereur du Second Empire. Alors, les républicains, devant cette menace continuelle d'un retour d'un empereur, d'un exécutif fort, d'un président de la République au pouvoir outrancier, etc., sont revenus à l'esprit initial de la République, à savoir que le pouvoir était dans l'Assemblée. L'Assemblée. Malheureusement, il n'y avait pas ni sous la 3e, ni sous la 4e République, de majorité suffisamment stable pour que ces républiques soient à la fois efficaces et stabilisées.
Alors dans votre démonstration, Michel Vinocq, vous considérez donc 3 types de désaccords profonds entre les Français, le religieux, l'institutionnel, mais aussi la lutte des classes.
À l'appel du comité d'organisation, 500 000 hommes viennent avec autant de foi que de force, affirmer leur attachement aux libertés républicaines. Donner du travail aux millions de chômeurs, garantir les salaires et les traitements des fonctionnaires et travailleurs des services publics, c'est combattre les effets douloureux de la crise dans les classes moyennes. Rien ne peut nous séparer sur ce terrain. Tout au contraire, milite pour notre union durable et solide. La CGTU rappelle qu'elle est prête à contribuer en pleine loyauté à l'élaboration d'un programme revendicatif et d'action dont la mise en vigueur garantira aux masses le travail et le pain.
Au nom du peuple de France, rassemblés aujourd'hui sur toute l'étendue du territoire, nous, représentants mandatés ou membres du Rassemblement populaire du 14 juillet 1935, nous faisons le serment solennel de rester unis pour désarmer et dissoudre les ligues factieuses, pour défendre et développer les libertés démocratiques et pour assurer la paix humaine.
En 1935, les syndicats et les partis de gauche manifestent pour avoir du travail et du pain. Est-ce que c'est un moment unique dans l'histoire de la République et des luttes sociales, Michel Vinocq ?
Certainement pas, mais le 19e siècle a été beaucoup plus sanglant dans ses luttes. Ce qui explique aussi la nature du syndicalisme notamment et du socialisme en France. En effet, pour aller vite, il y a eu trois grands affrontements sanglants au XIXe siècle. Ça a été la révolte des Canuts en 1832, ça a été les journées de juin 1848 qui ont fait plusieurs milliers de morts et les journées de la Commune de Paris qui a duré 72 jours, qui s'est terminée par la semaine sanglante avec beaucoup de morts, d'exilés, de déportés, etc. Donc nous avons une histoire ouvrière, une histoire socialiste, une histoire sociale qui est une histoire dramatique et sanglante. Et il en est résulté que nos syndicats, notre socialisme a été à l'origine un mouvement ouvrier de lutte de classe, c'est-à-dire étranger au processus de compromis, de discussion. Et c'est pourquoi la France n'a jamais été vraiment social-démocrate, comme en Allemagne, ou travailliste, comme en Angleterre, ou social-démocrate, comme en Scandinavie, où là, les partis de gauche, socialistes, ou les syndicalistes, qui étaient liés aux partis, ont accepté l'économie de marché, mais évidemment défendait un projet social qu'on a appelé ensuite l'État-providence, etc. Et nous avons eu par conséquent un syndicalisme qui reste fondamentalement un syndicalisme de contestation, de protestation, et non pas d'élaboration d'une autre société dans un cadre capitaliste. Alors bien sûr, il y a la CFDT qui évolue dans ce sens.
Qui est un syndicat de la réforme,
oui,
et du compromis.
On pourrait dire un syndicat réformiste qui accepte le compromis, soit avec l'État, soit avec l'entreprise. Mais fondamentalement, n'est-ce pas, nous avons l'habitude de la grève, par exemple, en France. La grève, la manifestation, la référence au drapeau rouge, on l'a entendu dans le document sonore, l'international, etc. Ça reste encore des choses vivantes.
Alors par ailleurs, ce qui est intéressant dans ce document sonore, c'est que les 500 000 défilent aussi contre les ligues factieuses au nom du peuple de France. Rappelons que nous sommes en 1935, que Hitler et Mussolini sont bien installés au pouvoir en Allemagne et en Italie, et que nous sommes à la veille de la guerre d'Espagne dont Franco sortira victorieux.
Vous écoutez RFI, la marche du monde.
L'histoire peut-elle se répéter ? Est-ce le retour des années 30 ? C'est en tout cas l'interrogation de nombre de chroniqueurs politiques, je pense à Alain Duhamel, ou nombre d'historiens, et je pense au dernier livre de Pascal Blanchard intitulé « Les années 30 et si l'histoire recommençait ?»
La France des années 30 commence avec une crise économique, la crise de 29, qui s'abat plus tardivement sur la France que dans les autres pays, mais qui va durer plus longtemps. C'est exactement le même mécanisme de la crise de 2006-2008. Elle a mis peut-être moins de violence en France, mais elle est toujours présente et omniprésente. Nous sommes encore piégés par cette crise économique. Donc déjà, le contexte économique est semblable. Deuxièmement, la haine de l'étranger, le refus de l'autre. Je rappelle que les premières grandes lois d'expulsion des étrangers en France datent de 1932. On est dans un contexte de rejet de cet autre, de désignation de l'autre étranger comme coupable, responsable ou preneur de place des Français dits légitimes. La France d'abord, d'une certaine manière. C'est le grand discours des années 30, et on le retrouve aujourd'hui avec « On est chez nous » du Front National. Troisièmement, une crispation des droites qui se rapproche de l'extrême droite. C'est-à-dire que le processus des années 20 a amené la droite classique à passer accord ou alliance avec l'extrême droite. Et c'est ce qui va se passer avec la montée des ligues, et on va le voir à un moment avec l'accord, notamment pour faire tomber Blum en 37, ce qu'on a appelé le Front de la Liberté, où l'extrême droite et la droite vont avoir des candidats communs aux élections. Ça s'appelle le Front de la Liberté. Louis Marin, Jacques Doriot sur la même affiche politique. C'est déjà arrivé dans notre histoire, c'est ça qui nous interpelle. On se dit, mais oui, mais alors, tiens, est-ce que l'entourage aujourd'hui de Fillon n'est pas sur le fond beaucoup plus proche du discours d'une partie de l'aile, on va dire, moderniste du Front National, qu'il n'est proche d'un Macron ou qu'il n'est proche d'un François Hollande? C'est peut-être que les mécanismes qui sont en mouvement politique correspondent à des mécanismes qu'on a déjà connus, et d'une partie de la droite qui est en train de se rassembler face à un centre et une gauche, plutôt centriste, qui va se rassembler, et une extrême gauche qui est en train de totalement se détacher de la gauche socialiste. C'est exactement ce qui s'est passé dans les années 30, entre 1937 et 1940.
Pascal Blanchard, au micro de Lydie M pour la Marche du Monde. Est-ce que vous êtes d'accord sur cette analyse des faits, Michel Vinocq ?
Absolument pas. Nous sommes dans une période, une époque complètement différente. Alors, bien sûr, on peut trouver des analogies. Moi, je vous dirais, des analogies, je les trouve aussi avec les années 1880, où l'on retrouve la crise économique, le chômage, la montée des populismes avec le boulangisme, etc. Pour moi, c'est un jeu de l'esprit à vouloir systématiquement comparer une époque avec notre époque. Réfléchissons simplement à la nature de notre société. Dans les années 30, la France, c'était quoi ? C'était une nation de paysans et d'ouvriers. Aujourd'hui, les paysans représentent 1% de la population active, et les ouvriers, vous savez que leur nombre baisse de plus en plus au profit de ce qu'on peut appeler grosso modo les classes moyennes, les professions intermédiaires, etc. La société n'est plus du tout la même. Regardez les mœurs. Dans la société, l'économie, rien de comparable. L'environnement international, où est Hitler ? Faut-il comparer Daesh à Hitler ou à Mussolini ? Enfin, c'est tout à fait autre chose. Nous avions à nos frontières françaises Adolf Hitler, qui avait un programme expansionniste de conquête, n'est-ce pas ? Et Mussolini, qui était aussi à nos frontières. Est-ce que nous avons à nos frontières un tel danger, une telle menace ? Non, je crois qu'il y a là une facilité, un jeu de l'esprit. Parce que c'est vrai, il a raison Blanchard de dire qu'il existe des mécanismes, mais des mécanismes qui se reproduisent. Quand il y a une morosité, une récession, une baisse économique et un chômage de masse, il est évident qu'il y a un certain nombre de réactions qui peuvent se ressembler. Et j'ajoute, où est le Front populaire aujourd'hui ? Où il est ? Le Parti communiste, il est réduit à une peau de chagrin, et il n'existe plus. Le Parti socialiste, il n'y a pas de Front populaire. Alors, où est la validité de cette comparaison ?
Alors justement, face à la situation sociale, donc au sentiment de déclassement et de désespoir des classes populaires, Pascal Blanchard propose justement un comparatif entre Léon Blum et François Hollande. Écoutez.
On a essayé de comparer Blum 36-37 de François Hollande 2012-2014, en disant, voilà, tous les deux sont élus avec une capacité d'ouvrir un spectre large à gauche en pensant qu'il doit y avoir un changement majeur après une époque difficile. Les années Sarkozy, c'est la page qui se tourne avec François Hollande, et la difficulté depuis le 6 février 1934 et les manifestations dans la rue où l'extrême droite tente de prendre et d'abattre la République, l'arrivée de Blum, censée pacifier et surtout unir un spectre très large à gauche. Mais c'est un contexte compliqué politiquement, c'est un contexte qui est compliqué économiquement, c'est un contexte aussi où les classes populaires sont vraiment en conflit. Et quelque part, très vite, Blum, pratiquement en 37, l'affaire est déjà pliée. Et François Hollande, à partir de 2013, on voit poindre les critiques déjà qui montent. Et le grand tournant, après, avec l'arrivée de Manuel Valls en 2014, sera d'une certaine manière le point de rupture majeur. Il y a un sentiment des classes populaires d'être définitivement trahies. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des éléments majeurs. Il restera toujours les congés payés sous Blum, comme il restera toujours le mariage pour tous avec Hollande. Mais sur le fond, il y a une rupture dans l'espoir. Il y a une rupture dans la croyance que la gauche peut nous changer la vie. Et là, le sentiment, il est pareil, il est similaire. Et quand on regarde, le désespoir au sens de classe, des classes populaires, qui ont le sentiment de ne plus être représentées à un moment et de ne plus être défendues par Blum, qui quelque part, quand il arrête sa politique économique et qui quelque part fait ce qu'il a appelé une économie plus libérale, d'une certaine manière, ça fait vraiment penser à ce qui se passe avec François Hollande et Emmanuel Valls. C'est pour ça qu'on a comparé ces deux moments, ces deux personnages, qui sont porteurs d'espoir quand ils arrivent au pouvoir, qui nous parlent tous les deux de lutter contre le grand capital, qui nous parlent tous les deux d'une capacité de changer la France, qui nous parlent tous les deux d'une autre manière de penser la gauche, qui nous parlent tous les deux d'espoir et qui très très vite vont trahir. Et qui surtout ne vont pas comprendre pourquoi les classes populaires leur en veulent.
Michel Vinocq.
Blum n'a pas été renversé en 1937 par les classes populaires. Il a été renversé par les radicaux. Les radicaux qui représentent les petits chefs d'entreprise, les petits commerçants, etc., qui sont effarés par la politique sociale du Front populaire. Donc ça n'a rien à voir avec une sorte de révolte, de déception des classes populaires. C'est une erreur total de faire cette comparaison.
Il y a 12 chapitres, et dans ces 12 chapitres, on a choisi à chaque fois d'avoir un 12 binôme d'images. Une image d'hier, une image d'aujourd'hui. Et devant nous, on a une image de 1936, c'est un meeting de Jacques Doriot, les bras ouverts, les oriflammes du PPF derrière, le titre « Adhérer en masse au Parti populaire français », rien que son nom, on a compris qu'il ne s'intéressait pas ou qu'il ne s'adressait pas aux classes bourgeoises. Et face à lui, l'affiche prise au 1er mai 2012 de Marine Le Pen sur scène avec le grand drapeau français, le cheval de Jeanne d'Arc et la statue de Jeanne d'Arc derrière lui, des drapeaux et des oriflammes bleu, blanc, rouge partout avec le slogan « Oui, la France ». Et on s'est dit, ces deux images, les deux bras écartés des deux leaders, celui d'hier et celui d'aujourd'hui, et Marine Le Pen en 2012, Jacques Doriot en 1936, eh bien ça nous fait réfléchir sur la posture. Ça nous fait réfléchir sur les discours, ça nous fait réfléchir sur la mise en scène. Les partis populistes ne sont pas des partis neutres dans la manière dont ils se mettent en scène, en mouvement, on va dire, d'une certaine manière. On pourrait le regarder chez d'autres, hein, mais on voit bien que la mise en scène des deux, avec les oriflammes, les drapeaux français, malgré la distance du temps, ils se ressemblent.
Michel Vinocq, est-ce que le parti de Marine Le Pen est un parti populiste? Vous qui consacrez de nombreuses pages à la définition du populisme, des populismes français, dans votre livre « La République française ».
Le Front National, c'est ce que j'appelle, avec d'autres, le national-populisme.
Absolument, le national-populisme.
National-populisme parce que le populisme peut avoir deux faces qui sont complémentaires et qui peuvent s'additionner. Il y a une face protestataire, c'est-à-dire la révolte des classes populaires, des classes populaire, c'est beaucoup dire, disons de leurs représentants, des démagogues qui prétendent représenter le peuple et qui protestent, n'est-ce pas, contre le gouvernement, les gouvernements qui sont censés les ignorer. Et il y a là une sorte de révolte, par conséquent, contre un certain nombre de lois, de dispositions, d'actions, etc. Et il y a une autre face qui est la face identitaire. C'est-à-dire que là, nous ne sommes plus dans le domaine social. Nous sommes dans le domaine de la lutte entre des minorités, ou plus exactement, nous sommes là dans le rejet des minorités ethnoculturelles. Et c'est autre chose. C'est la défense avant tout de la francité, c'est la défense par conséquent des Français de souche, des Français autochtones qui doivent se protéger de l'invasion étrangère, de l'immigration. Et cette double source identitaire et protestataire font ce que nous appelons le national-populisme.
Alors justement, Michel Vinocq, vous qui avez longuement réfléchi à cette histoire de la République, vous qui défendez cette 5e République, est-ce que ce national-populisme est compatible avec la République, avec la 5e République ?
Je ne le crois pas. Je pense qu'il porte en lui les germes de la dissociation, parce que la République, qu'elle soit 5e ou autre, n'est-ce pas, c'est le régime de la liberté, c'est le régime de l'ouverture, et par conséquent, même si les portes ne doivent pas être toujours grandes ouvertes, c'est la responsabilité de l'État. Il est évident que l'immigration, ça se contrôle. Mais cela dit, je dirais que ces gens-là ont la phobie de la mixité, du métissage.
Mais c'est l'histoire de France, ça, Michel.
Exactement.
Guignac, le métissage.
Ils oublient tout simplement que nous sommes, comme le disait le grand historien Lucien Febvre, nous sommes tous des sangs mêlés. N'est-ce pas ? Nous sommes tous des sans-mêlés. Nous avons dans nos familles des origines extrêmement diverses. Et c'est ça qui a fait précisément la France et son génie. Et par conséquent, vouloir s'enfermer dans une identité improbable du reste et la maintenir contre vents et marées, il y a là quelque chose qui est profondément anti-républicain.
Un grand merci, Michel Guignac. Je recommande à toutes et à tous la lecture de votre livre « La France républicaine ». C'est dans la collection Bouquins, aux éditions Robert Laffont. Et je remercie Pascal Blanchard pour sa participation. Son livre « Les années 30 et si ça recommençait » est aux éditions La Martinière. La République, selon Michel Guignac, c'était un nouvel épisode de La Marche du Monde, signé Valérie Nivelon et mise en onde par Elliot Bourrel. Rendez-vous sur la page RFI.fr de La Marche du Monde pour réécouter cette émission. Retrouvez-nous également sur Facebook, réagissez, podcastez. Cette émission, c'est la vôtre.
Oui, je t'aime, dans la joie ou la douleur.